Bon, bah, évidemment, il y a eu une époque de familiarisation, les premières années, sont les trois premières années pour moi maintenant, rétrospectivement, je considère comme une époque de prise de contact. Alors, j'essayais de trouver un milieu, juste un milieu, un jugement, une vision des choses, essayer d'avoir le plus connaissance possible. Donc, au départ, il a fallu que je prenne le pouls du milieu, tu sais, petit à petit. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, mes jugements n'étaient pas appuyés autant qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Changer rapidement d'une année à l'autre parce que d'autres optiques se présentaient à moi, d'autres façons de voir le monde, de voir les choses, de voir la production des gens. Reste que ce qui m'a frappé le plus au début, c'est de voir le nombre assez incroyable d'artistes par rapport à ce que j'ai suivi avant de commencer à vivre dans les années 60. Hein. Plein d'artistes qui débouchaient de part et d'autre des jeunes, j'ai couvert un nombre d'expositions assez incroyable à ce moment-là. Puis je regarde ça maintenant rétrospectivement, puis il y en a peut-être 75% qui sont disparus. Par ailleurs, les autres qui sont restés sont devenus des gens pas mal intéressants. C'est des jeunes artistes à l'époque qui ont maintenant 35-40 ans, qui sont en train d'éclater ces communautés. Bon. Le plan de la qualité, ça a mûri, ça a commencé à devenir très intéressant. À partir du milieu des années 70, je trouve. Bon. Je fais encore un déjeuner.
Juste ça, comment tu es arrivé à faire de la critique d'art?
Ah, comment je suis arrivé à faire de la critique d'art? Ben, c'est la vie, quoi, c'est un hasard. Moi, j'étudiais en lettres, et à un moment donné, tout d'abord, ça m'intéressait, le milieu m'intéressait, les arts m'intéressaient, je commençais à... j'avais une maison qui était peinte, qui m'a, en quelque sorte, donné le goût de la peinture. Petit à petit. Après ça, j'ai travaillé dans des galeries, j'ai travaillé chez Corbeil, j'ai travaillé avec Roger Bellemare, qui lui m'a ouvert les yeux sur bien d'autres choses que je savais. Parce que moi, mes premiers contacts avec la peinture, c'était l'école de Paris, l'expressionnisme abstrait, l'abstraction lyrique, et puis il y avait juste ça, puis c'était assez. Alors que maintenant, peu à peu, j'ai commencé à me familiariser avec les choses différentes, les autres écoles, c'est des choses que je rejetais catégoriquement, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait de la place pour tout le monde sous le soleil. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'entrer à la presse, à un moment donné, ça m'intéressait, je suis allé poser ma candidature, et puis j'ai été accepté, on m'a laissé avant, finalement. Puis ça a fait l'affaire, donc j'ai commencé, c'est parce que je me destinais à l'enseignement, j'allais enseigner en lettres, soit à l'université, soit au cégep, c'est ce qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'est vivre de ma plume. Alors je me suis dit, bon, c'est le moins intéressant de vivre de plume. Je ne savais pas dans quoi m'embarquer à l'époque. Mais maintenant, je sais. Bon. Alors il a fallu faire de cet engouement-là un métier, une profession. Puis une profession qui n'est pas vraiment celle d'une critique d'art, comment dire, très spécialisée, qui est celle d'une critique d'art que je considère comme journalistique.
Chroniqueur.
Alors évidemment, les jugements sont souvent faits rapidement. De l'histoire. Il y a eu quelque chose de déterminant, quelque chose qui m'a sans doute permis de rester, qui m'a permis de débloquer dès le départ. C'est le voyage que j'ai fait en 72. Je viens de tourner 3 semaines en Europe, payé par la presse. Biennale de Venise, Documenta de Cassel, Foire de Bâle, Biennale de Paris, tout en même temps. Alors là, j'ai vu qu'est-ce qui se passait. Puis la Documenta de Cassel en 72 est importante. C'est peut-être la plus importante en ce qui concerne les avant-gardes, en ce qui concerne l'art contemporain. Alors là, pour moi, ça a été le choc. Ça a été la découverte, dans ses moindres retranchements, de ce que c'était finalement la transformation de l'art contemporain. Et ça m'a servi de repère pendant ce temps-là, beaucoup, beaucoup. Par la suite, pour couvrir un peu la scène artistique québécoise. Ça a été mon point de comparaison, parce qu'en critique, je me suis toujours dit que finalement, qu'est-ce qui faisait le jugement, qu'est-ce qui faisait la capacité de porter un jugement ou de se prononcer ou de discuter une problématique, c'est les points de repère. C'est la connaissance. Ça, connaître le plus grand nombre de choses, c'est ce qui te permet d'avoir des points de comparaison. Bon, c'est comme ça que je peux venir ici puis suivre de façon assez à l'aise, de mon point de vue en tout cas, ce qui se passait autour de moi. Puis de développer de plus en plus une certaine subjectivité que je peux rejeter complètement. Parce que c'est ça qui fait que le métier devient réel. Toujours te cacher derrière des paravents théoriques ou des retranchements qui appartiennent bien souvent à d'autres, qui t'immunisent, Mais à ce moment-là, tu perds une partie de ta personnalité, de ton être. Je trouvais ça important, moi, de développer une subjectivité qui s'appuie quand même là, sur des connaissances, pas sur pas une subjectivité niaise, spontanée et naïve, si tu veux. T'sais.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu dis 3 ans, les 3 premières années, c'était un camp d'entraînement? À quel moment que tu sentis qu'il y a un camp d'entraînement?
Ben là, je dis ça approximativement. Non, ça pourrait être 2 ans et demi, ça pourrait être 2 ans, ça pourrait être 3 ans et demi. Mais c'est quand j'ai commencé à être plus sûr de ce que j'écrivais, c'est quand j'ai commencé à être assez cohérent dans ce que j'écrivais d'une année à l'autre sur les mêmes personnes. Mm-hmm. Et puis à pouvoir dire que oui, c'est bon ce qu'il fait, ce gars-là, mais c'est pas tout bon, il y a des choses qui sont moins intéressantes. À ce moment-là, là, j'ai dit bon, ça y est, je commence à savoir travailler. Et puis aussi les problèmes d'écriture, c'est pas facile d'écrire un journal, d'écrire des articles courts. Toujours, c'est pas facile. Faire une interview, lui feuiller, c'est pas facile. Alors ça, c'est un métier que j'ai appris. Je l'ai appris, c'est le journaliste, je l'ai appris sur le tas parce que je n'étais pas capable de faire une interview en 1972. Les premières interviews que j'ai écrites, c'était catastrophique. C'était absolument pas structuré, c'était pas présent. C'était très, très mal fait. Maintenant, je sais comment faire un article, je sais comment le construire. Mm-hmm. Je suis capable de montrer à d'autres à le faire aussi. Sauf que je ne pouvais pas faire au début parce que j'étais trop insécure. Mm-hmm. Bon. Peut-être qu'on s'est mis de commencer par ce que je vois maintenant actuellement, ce que okay. je ressens, puis on retournera en arrière. C'est difficile, tu sais. Le gros changement de sensibilité depuis 10 ans, pour moi, c'est le passage de certaines conceptions théoriques très rigides qui ont fait que les peintres québécois, bon, ils avaient besoin, évidemment, se sont affirmés. Je pense à tout le groupe des plasticiens, deuxième vague, si je peux dire, Pour moi, c'est les grands points de repère, ça, et c'est les grands modèles. C'est vraiment les peintres qui, pour la première fois au Québec, après l'événement automatiste, ont fait une peinture qui se défendait sur le plan théorique et qui est très bonne également sur le plan visuel, sur le plan plastique, sur le plan émotif. Mm-hmm. C'est pour moi une admiration sans bombe pour ces travailleurs en particulier. Même des gars comme Urtubiz, c'est un espèce de personnage un peu comme Marc-Claude Fortin l'a été dans les années 30. C'est vraiment une personnalité à lui, une peinture à lui, même si on peut la rattacher à toutes sortes de courants expressifs là, qui sont venus derrière. Pour moi, c'est un moment important. Le Gaucher, le Fatih Konev, tous ces gens-là. Bon. Ça a donné évidemment, puis ça a été des professeurs, beaucoup d'entre eux ont été professeurs, ça a donné une espèce d'impact à notre art, une espèce de courant, une espèce de direction que j'appelle théorique, qui pour les peintres ne l'est peut-être pas, qui fait qu'on a fait une peinture après ça, inspirée du moins de cette peinture-là. Mm-hmm. Les jeunes artistes voulaient faire une peinture qui pouvait se défendre sur le plan de la modernité. Mm-hmm. Bon. Puis ces mêmes jeunes artistes-là, après quelques années, mais aujourd'hui, se sont détachés carrément, puis on est dans une espèce de période que je trouve très intéressante. Qui est la période du retour du jeu, qui est la période de l'ego, qui est la période postmoderne, qui est la période expressionnisante aussi, entre guillemets, qui est un retour. C'est comme si on avait réalisé que toute cette histoire de modernité-là, c'était fantastique pour faire avancer la peinture, puis qu'on avait absolument besoin pour se démarquer de la peinture automatique ou de la peinture lyrique précédente. On avait besoin pour en faire une espèce de coupure théorique pour dire voici la peinture appartient à la peinture de tout le monde. Elle peut s'exprimer par ses propres moyens, ses matériaux, etc. Puis là, on a dit oui, c'est bien beau tout ça, mais même en véhiculant un monde de référence, même en véhiculant l'ego, on pouvait faire une peinture qui soit quand même autonome, qui soit quand même peinture, mais qui tienne compte aussi de valeurs humaines, de valeurs individuelles.
Donc, en peinture, pour illustrer ce propos-là, quel artiste pense?
Je pense à la jeune peinture, actuellement, qu'on appelle la jeune peinture, toujours entre guillemets. Je pense à Le Trier, Bélan, qui a opiné de Peuge. Je pense à Richard Mille. Je pense à... tu peux nommer Tony Sou, tu peux nommer Louis Robert, tu peux nommer même Pierre Montetreau, tu peux nommer Raymond Lavoie, qui est très intéressant. Les dernières choses de Serge Lemoine, Diplotech, Jolifé, Cousineau, Mini Manuel, entre autres. Là, c'est une espèce de sensibilité complètement nouvelle, qui n'est peut-être pas nouvelle ailleurs, parce qu'il y a nouvel expressionnisme ailleurs aussi. Mais si on passe notre temps à se comparer avec ce qui se fait ailleurs, on n'en sortira pas de cette problématique-là, puis elle m'intéresse plus. On fait des choses, puis
on les regarde.
Si on les fait 10 ans après, je m'en sers. Finalement, je viens de réaliser, depuis quelques années, que 10 ans, c'est absolument rien dans le temps, c'est absolument rien dans l'histoire. Puis rétrospectivement, il y a des artistes qui ont fait des choses 10 ans avant d'autres, et dont on ne parle même pas, parce que c'était peut-être ça, c'était peut-être une découverte, mais plastiquement, ça serait pour sur le plan de la perception du spectateur vis-à-vis de cette œuvre-là, de quoi l'impact de quelqu'un qui a fait la même découverte 10 ans plus tard. Mm-hmm. Je n'ai pas d'exemple ici, là, mais j'ai déjà observé le phénomène dans l'histoire. Fait que 10 ans, là, c'est pas grave dans l'histoire. Puis dans 500 ans, 10 ans, ça n'aurait plus d'importance. Mm-hmm. Okay. Alors on ne va pas jouer sur les détails temporels de cette œuvre-là.
À ce moment-là, justement, vu que une question qui peut peut-être accompagner, quel est le rôle, parce que si on parle de peinture, quel est le rôle de la peinture dans notre société?
Bon. Moi, la peinture m'a toujours intéressé davantage que les autres modes d'expression. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute à cause de ma structure parentale, de ma structure éducative, de ma formation. Mm-hmm. Les critiques qui commencent à écrire maintenant ont probablement d'autres visions des choses. Pas tous, mais quelques-uns. Mais bon, ça, c'est un goût personnel. Ça, puis aimer jouer au tennis, ça me partit. Par ailleurs, je ne dis pas que le reste m'intéresse pas. Et le rôle de la peinture, finalement, il est assez similaire aux autres modes d'expression. Hein. Si tu regardes la façon dont la performance se déroule aujourd'hui, la façon dont l'art vidéographique se produit ou est créé, il n'est pas tellement éloigné de la façon dont on crée la peinture. Dans le sens que c'est encore une fois le retour de l'individualité, le retour de la personnalité, le retour de l'écho. Mais à l'intérieur de modes d'expression qui ne sont pas... Je trouve que la différence entre l'expressionnisme abstrait ou l'abstraction lyrique des années 60, des années 50, puis le nouvel expressionnisme réside dans l'apport que permet la modernité entre les deux, la peinture entre les deux. Donc des moyens techniques, des moyens matériaux, des moyens d'affirmer une autonomie d'objet qui n'était peut-être pas utilisée autrefois. Tu sais, il y avait une espèce d'automatisme débridé, spontané, qui n'avait pas la clairvoyance ou la connaissance, entre guillemets, qu'a le nouvel expressionnisme aujourd'hui. Ou les peintures qui se rapprochent, parce que, bon, on peut dire que Landon McKenzie, c'est vraiment le new image du expressionnisme, alors que, je ne sais pas, Raymond Lavoie, il se démarque quand même du new expressionnisme, parce qu'il y a beaucoup d'éléments modernité. Il y a des vestiges de modernité dans sa peinture, même si on ne peut pas dire que c'est une peinture entièrement moderniste. Autonome.
Et penses-tu que la peinture elle-même a un rôle? Hein? L'autre question sur la culture québécoise.
Ouais.
Est-ce qu'elle a un rôle important, majeur?
On existe en temps par jour. C'est-à-dire un effet social, un effet esthétique, un effet...
Ça, je te donne le champ, l'air, je t'ouvre le champ.
Okay. Ça dépend du point de vue, encore une fois. Mais si on regarde du point de vue artistique, la seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'on constate que c'est un fait qu'il y a beaucoup de peintres actuellement, puis de peintres intéressants. Je ne suis pas d'accord. Je crache sur la jeune peinture, mais moi je ne crache pas sur la jeune peinture. Pas du tout, même s'il n'y a pas tout de bonne, même si dans la production des bonhommes, il y a des choses mauvaises. Je dis qu'elle a un rôle parce qu'elle existe quantitativement d'une façon très importante, puis qualitativement aussi d'une façon significative.
Dis-tu qu'elle est en état de définition? Elle est encore?
Elle va toujours l'être. Le jour où on va arrêter de l'être, c'est très intéressant. Ça vaut pour n'importe quelle sorte de peinture. C'est ça qui fait qu'elle est intéressante. Enfin, moi, ma façon de voir la peinture, c'est ça. La peinture qui arrête de se définir, c'est une peinture qui s'est faite. Les gars les plus suicidaires dans le milieu à ce niveau-là, c'est des gars comme Bélan qui se mettent à changer radicalement du jour au lendemain et à devenir volontairement, quasiment, et consciemment rétrograde dans leur façon de produire. Le gars, il essaye de se définir. Le produit n'est pas bon, mais sa démarche est intéressante. Alors, elle a un rôle. C'est sûr, elle a un rôle. Par ailleurs, la sculpture environnementale, les installations, ou la performance, je connais moins la vidéo parce que ça me demande un effort considérable pour suivre ça, que je pourrais pas te donner. C'est vrai, ça prend un temps fou, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Mais la performance, j'en vois pas beaucoup, j'en vois un peu tout ça, ont aussi leur rôle. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'attitude fondamentale en arrière de ça. Et puis l'attitude fondamentale en arrière de ça, c'est ce que j'ai appelé ailleurs, l'apparition moi j'avais appelé ça, non, pas des mythologies individuelles, mais ça revient à ça, c'est l'apparition des folies séparées de chaque individu. Parce qu'il n'y a plus de consensus. C'est ça qui est intéressant, de voir comment l'art québécois, à partir de l'absence de consensus, parce que bon, il y en avait un à l'époque des plasticiens, comment l'art québécois, à partir de l'absence de consensus, parvient quand même à se prolonger, à se structurer, puis à créer des œuvres qui, en soi, si on regarde les individus un par un, les créateurs un par un, ont quand même des éléments très intéressants à l'intérieur. Fait que l'éclatement des valeurs, actuellement, permet la création quand même, ou le façonnage d'un art qui est très intéressant. Un art qui représente évidemment des folies séparées, mais on s'en rend compte de plus en plus que le seul dénominateur commun là, c'est justement ces folies séparées. Une espèce de façon qui est absolument débridée, qui récupère à la fois tous les mouvements esthétiques passés, comme le pop art, par exemple, même dans la nouvelle peinture, comme le travail ou les recherches des plasticiens, comme même l'automatisme, comme l'expressionnisme, une espèce de melting pot là-dedans, mais fait avec une façon tellement originale et différente de ce que ces mouvements-là ont fait individuellement, que ça me paraît intéressant comme image. Parce que c'est une synthèse, mais en même temps, ça dépasse la synthèse, parce que le résultat de la synthèse produit quelque chose d'entièrement nouveau et de déconcertant, évidemment, sur le plan théorique.
Et penses-tu que ces artistes-là, ben là, on pourrait y aller vite, parce que je pense que tout le monde connaît la réponse, reçoivent le traitement qu'ils méritent ici? Gouvernement, des mécènes ici, des
non, ça. Non, justement, moi, je trouve ça très triste au Québec, l'ignorance généralisée vis-à-vis de ces créateurs-là. Parce que je pense bien que dans des petits pays européens comme la Hollande, la Suisse, que tu connais un peu, il y a une espèce de, quand même, de mécénat beaucoup plus prononcé pour ces artistes-là. Puis, par exemple, même à Toronto, les jeunes artistes sont beaucoup plus encouragés. Je suis allé il y a un mois là-bas, j'ai rencontré quelques personnes là, du Corporate Art Group Collectors. J'ai une liste, il y a 50 compagnies à Toronto qui collectionnent, puis des grosses compagnies. Toronto Damien Bank, par exemple. Ils ne sont pas juste mécènes au niveau de l'achat de tableaux, ils ont fait construire leur capture en centre-ville par Mies van der Rohe, tu sais. Ils trippent au bout de ces gens-là dans le caractère artistique, puis ils trouvent leur profit à part ça, ils sont pas fous. Et j'ai vu des bureaux d'avocats absolument renversants sur deux étages, au 47e étage de la First Canadian Place, avec des tableaux, à peu près tout l'art canadien là-dedans, from coast to coast. Les gars, ils ont des budgets, 200 000 piastres par année. Je sais pas, il y a une espèce de tradition de mécénat. Tu leur demandes, ben, connaissez-vous ça? Non, ils ne connaissent pas tellement ça. Tu regardes ce qu'ils ont fait eux, puis ils ont des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ici. Nous, ça m'intéresse beaucoup. Ces gens-là sont mal desservis et ils sont souvent même méprisés par leur père, par des artistes, ou encore par des théoriciens. Pas généralisé. Il y a quand même un certain nombre de gens. Mais je ne sais pas pourquoi tu vas parler de quelqu'un qui est propriétaire d'une grande galerie à Montréal. Ce que tu penses de tel jeune homme qui est pas vache, c'est pas bon. C'est pas intéressant, regarde ce que chose a fait en 1912, tu as étudié dans un catalogue, ça ressemble à ce que Plotek fait. C'est une attitude terrible. C'est pas comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Non. Moi, ça m'attriste qu'il n'y ait pas plus de respect pour ces artistes-là. Même les musées, ils vont pas faire. Mais ils vont se mordre les pouces encore dans 30 ans. C'est ça.
Pas de budget.
Pas de budget ou quand il y en a, ça ne sert pas pour ça. Je ne suis pas partisan là, de l'achat local à tout prix. Au contraire, mais quand même.
Il faudrait au moins que les musées témoignent un peu de l'art récent.
On le témoigne.
Je pense qu'on devrait en avoir un peu.
Oui, il y en a des bonnes pièces. C'est sûr. Mais là, il faut des gens qui savent choisir les bons tableaux. C'est un autre planement. Choisir des bons tableaux, le seul vrai critère, c'est d'avoir tout vu, ou presque.
Aussi, si tu regardes, on a parlé des individus, est-ce que tu penses qu'il y a des événements marquants, plus marquants que d'autres, qui se produisent ou qui sont produits, disons, pendant ces 10 années-là? Pour toi, sont des signes du temps, ou des... Ça soit des symposiums, des chouettes, ou je sais pas quoi.
Ouais, là, il aurait fallu que je revise un peu ce que j'ai dit, ces affaires-là, mais effectivement, ce que j'allais te répondre avant que tu me dises le symposium de Chicoutimi, c'est qu'il y a eu des individus, à un moment donné, qui n'étaient pas nécessairement des artistes, qui ont décidé, c'est arrivé souvent depuis 11 ans, depuis 10 ans, qui ont décidé, qui ont essayé, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans les musées, que ce soit à l'extérieur des musées, à un moment donné, de ramener tout ça avec une manifestation, puis d'essayer de faire une synthèse dans le milieu, tu sais.
Mm-hmm.
Alors, c'est toujours incomplet, cette histoire-là, mais il y en a eu plusieurs.
Mm-hmm.
Ça a commencé avec Québec 75, c'est peut-être une des premières importantes de cet ordre-là.
Dans l'époque, oui.
Bon. Il y a eu 03, il y a eu...
Il y a eu 111 dessins.
Il y a eu 111 dessins qui est pour moi très important. Ça, c'est vrai, je me le rappeler. Une exposition importante. Il y a eu des choses plus ponctuelles, moins importantes, intéressantes, mais moins importantes parce que c'était trop partiel comme repère récemment.
Mm-hmm.
Mais bon, il y a eu plusieurs, c'est ma mémoire, là. Il y a eu plusieurs choses comme ça qui sont importantes. Et puis aussi l'apparition de certains organismes. Il y a eu besoin de s'exprimer aussi sur le plan verbal qui n'existait pas. Alors, il y a eu un mépris au début des années 70 pour l'écrit. Et après 1975, on s'est mis à publier des trucs, il y a eu Parachute. Actuellement, il y a chaque petite association d'artistes a son petit journal. Il y a des gars à Québec, ou à Chicoutimi, qui sortent des revues, qui est disponible en numéro une dizaine. Il y a une volonté de documentation aussi, qui est encore là, malheureusement, pas soutenue. Mais il y a des individus qui font des choses. Hein. Il y a Francine Pélinaire,
Artex.
Il y a Yvan Boudris, qui, de mon point de vue, extraordinaire, c'est des trésors iconographiques, lui. Il a photographié depuis que je le connais, à peu près tout ce qui se fait d'important dans les galeries. Tu te rends compte, c'est une mine de renseignements absolument inouïe, puis on lui crache sur le dos à Québec. Voilà. On ne se rend pas compte de l'importance de la chose.
Donc, c'est à peu près toujours des individus, presque. À l'exception de quelques expositions comme le repère, c'est vraiment des jeunes individus.
211 dessins, il y a sûrement d'autres choses, il faudrait que ça m'en vienne à l'esprit. Non, je vois pour l'instant. C'est ça.
Il y a aussi une autre chose, justement, si on continue dans les revues. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la critique, de l'écriture, ici?
Oh, ben ça, c'est une grande question. C'est très difficile, évidemment, écrire au fur et à mesure qu'on en se fait, mais je pense que, objectivement, il y a un grand changement depuis 10 ans, dans le sens qu'il y a à peu près 100 fois plus de gens qui écrivent, donc il y a une espèce de mouvement là, d'écriture qui est intéressant, de théorisation, il y a plein de gens. Tu sais, par exemple, les universitaires, autrefois, ben, ils écrivaient pour leur carrière, finissaient avec l'université, soit qu'ils enseignaient, soit qu'ils allaient faire autre chose. Aujourd'hui, les gens commencent à écrire beaucoup.
Mais avant, vous dites qu'avant 65, l'universitaire ici.
C'est vrai. Ou la formation qu'il y avait, elle s'arrêtait à l'université. C'est juste. Bon. Par ailleurs, ce que j'ai de la difficulté à comprendre et à concevoir, c'est que l'écriture, il y a une espèce de... C'est pas tellement que c'est pas bon, c'est que peut-être que la volonté de théorisation ou de perfection théorique mène à un langage très hermétique. Moi, je sais, je suis journalistique, puis c'est toujours été mon problème, c'est d'essayer de rendre les choses le plus accessible possible, puis encore là, c'est très difficile, parce que l'art est une chose en soi compliquée. L'art est une chose accessible, mais c'est une chose compliquée. L'écriture sur un gars qui passe sa vie à penser, à rechercher plastiquement des choses, n'est pas nécessairement simple, parce que ce que le gars fait, c'est pas nécessairement simple, tu comprends? Il passe 16 heures par jour à réfléchir. Tu peux pas simplifier une chose comme ça, toujours, mais il y a moyen, il y a moyen. Et actuellement, il y a une espèce de cantonnement, de fermeture là, au niveau de du langage. Le langage devient très complexe, très difficile. Je pense entre autres à Parachute, une de vue qui m'intéresse, moi. Mais même moi, qui est un théoricien de l'art, j'ai de la misère à passer à travers d'un bout à l'autre parce que, je sais pas, il y a une forme de complaisance d'écriture et de la théorisation que je peux parfois pénétrer.
Mm-hmm.
C'est ton sentiment de même.
Mm-hmm. Mais des fois, on dirait que l'individu a un discours, donc il ne ramasse que les œuvres comme pour illustration, de toute façon secondaire,
c'est-à-dire que c'est un discours. Souvent
c'est lui qui parle, c'est son œuvre d'art.
Oui, c'est un soliloque. Puis ça, c'est. Je pense qu'il y a une autre fonction critique que celle-là. Puis on ne l'a pas peut-être trouvé. Malheureusement, pour ce qui est des journaux, là, je me mets à part parce que la presse a une tradition, une tradition critique d'art, il n'y a pas de volonté non plus dans le milieu d'entretenir une tradition très très forte. Alors, les gars passent, puis ils ne font pas 2 ans, puis ça tombe parce qu'ils n'ont pas les conditions de travail intéressantes. La sous-structure, le support économique n'est pas là pour qu'il y ait une écriture suivie à ce niveau-là. T'sais. Donc, ils ne peuvent pas.
Parle surtout de voir, c'est ça.
Ouais. Il ne peut pas y avoir de. Puis il n'y a pas assez de journaux non plus, mais ça, on a diminué. Il ne peut pas y avoir de tradition très importante à ce niveau-là. T'sais. Puis même à l'intérieur d'un journal important comme la presse, souvent les conditions de réflexion intellectuelle sont très limitées parce qu'il y a des problèmes de production. Mais ça ne peut pas tout arriver au New York Times, au monde. Hein.
Non.
Où les gars, ils ont un recherché sur l'extrait.
L'Express ou n'importe quoi. C'est vrai qu'on pense à l'actualité, c'est un critique d'art là-dedans.
À l'actualité, non. Ah non. Il a envoyé par exemple une journaliste qui fait n'importe quoi récemment à New York pour aller s'inviter. Mm-hmm. Qui ne connaît rien là-dedans, mais qui est quand même intéressé, tout ça, mais ils n'ont pas personne de type. Pour eux, c'est pas rentable. Mm-hmm. Ça, c'est le point du pays.
C'est parce que tu vois, c'est que si on fait un tour, mais on n'accroche pas, là.
Non.
On développe pas,
c'est ça. Mais moi, je pourrais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'attitude des artistes actuellement, parce que c'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça que je constate, puis c'est ça qui m'apparaît être peut-être le. En tout cas, moi, c'est mon filon personnel, c'est ma marotte. C'est quand je te parlais de l'absence de consensus au niveau philosophique, esthétique, plastique, là, en général, l'absence de consensus général dans la création. C'est intéressant parce que c'est que ma réflexion est toujours la même depuis 1979 là-dessus, c'est qu'il n'y a plus, il y a plus de... C'est-à-dire qu'on a changé de médiation. Autrefois, ce qui permettait le consensus, c'était... autrefois, il y a très longtemps, c'était quand même, par exemple, c'était la religion dans certaines sociétés, dans la société occidentale. La religion temporisée était la voie par laquelle toute l'agressivité ou toutes les pulsions pouvaient se canaliser. Et puis, au bout de ça, ben, on avait dans le rapport à la loi, on avait une expression artistique qui exprimait ce consensus-là. Maintenant, il n'y en a plus de consensus.
La société n'a plus de consensus.
C'est plus. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, ce que j'appelle, ce qui remplace le consensus, c'est ça, les folies séparées, c'est les névroses individuelles. C'est pas négatif là, comme jugement, c'est une constatation. Puis il y a des choses peut-être très valables, c'est à travers ces névroses-là, c'est à travers cet éclatement-là, donc à travers les formes de l'art québécois actuel, et puis ça vaut d'ailleurs pour l'art ailleurs, qu'on va peut-être trouver quelque chose à un moment donné. C'est pour ça que c'est intéressant de surveiller et de guetter. Parce que le discours théorique tombe à vide en ce moment. Hein. Étant donné qu'il n'y a plus de consensus, le discours théorique se cherche. Il ne fait que constater l'absence de consensus. Dans la plupart des discours théoriques que tu vas lire, j'ai lu récemment le catalogue de repères, je trouvais intéressant, peut-être que François Lescon. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas aimé, mais je trouvais intéressant. Puis c'est ça, tout le long, c'est la constatation de. Il n'y a plus moyen d'avoir de discours, étant donné que l'art refuse les discours, ou refuse en tout cas les filiations avec les pensées théoriques précédentes. Puis c'est ça qui est l'art québécois récent, et ça remonte évidemment à cette tendance-là au début des années 70. Tu sais, quand des gars comme Vazan, quand des gars comme, ont commencé à faire des choses en 1972, 1971, il ouvrait un peu la voie parce qu'il décloisonnait l'art, on sortait de la peinture, on sortait de. Alors ces gens-là ont influencé également la peinture qui a voulu sortir d'elle-même d'une certaine façon. Et puis tout ça a avancé finalement, ça a été l'éparpillement, ça a été l'effritement des consensus. Et puis, même le discours est obligé de faire cette constatation-là. Sinon, on aboutit juste à des fabulations théologiques absolument imprenables. Regarde actuellement Brigitte Radetzky, le Musée d'art contemporain. Essaye donc de construire un discours formel là-dessus. Tu vas chercher longtemps. Hein. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a une disposition très formelle. Tu peux parler de la grille, la façon dont les colonnes sont placées, tout ça. Mais toute l'œuvre est construite en fonction d'une espèce d'investigation très individuelle et très, très névrosée, très narcissique, des pièces une par une, jusqu'au moindre petit détail là, du façonnage des surfaces extérieures. Tu sais, il y a plus de possibilité, de mon point de vue, là, d'avoir des beaux schémas rationnels, des belles grilles claires, pures et simples. Fait que, pour moi, c'est ça la grande transformation des années 70.
Et dans ce sens-là, est-ce que ton livre, c'était fait avec Jean-Claude Dussault en témoin?
Oui.
Parce que finalement, c'est que bien, là, on discours, on a dit finalement l'art moderne.
C'est ça. Ben, c'est ça, effectivement. Parce que bon, on disait que même les pionniers de l'art moderne avaient un consensus, c'était peut-être pas un consensus authentique parce qu'ils bon, étaient appuyés sur la philosophie et toutes sortes de choses de ce genre-là. Mais au moins, il y avait une espèce de volonté spirituelle. Et je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est pas bon. On n'a jamais porté de jugement là-dessus, on a juste dit c'était ça. Mm-hmm. Puis on dit aujourd'hui, c'est plus ça, c'est autre chose. C'est la disparition des. Ça a été en tout cas la disparition des valeurs soi-disant spiritualisantes avec le modernisme. Puis là, je me rends compte depuis 1979, depuis que j'ai écrit ce livre-là, qu'on pourrait faire un autre livre sur la réapparition des. Soit des influences orientales, ou soit des mystiques, ou soit de la nouvelle spiritualité à travers l'œuvre des artistes, parce que beaucoup d'œuvres sont très méditatives. Il y a beaucoup d'œuvres maintenant qui récupèrent un petit peu naïvement les petites notions qui sont rendues jusqu'à nous du zen ou encore de certaines choses comme ça. T'sais. Il y a bien des artistes qui sont servis, qui ont été absolument fascinés par ces choses-là, mais à un niveau encore peut-être superficiel. C'est comme un retour. C'est forme de recherche. On dirait qu'on veut redonner à l'art un consensus spirituel ou qu'on veut lui donner une dimension suprahumaine, qu'on veut lui donner une fonction, j'aime pas employer le mot religieux parce que c'est pas ça du tout, mais une fonction
théorique, référentielle,
c'est ça, un genre de positivité, d'état, de symbole justement d'état supérieur, existant ou non, je sais pas, quoi. Là-dessus, il y a peut-être des choses intéressantes.
Je viens de lire, c'est très dur sur la notion d'avant-garde.
La succession effrénée des avant-gardes, l'effritement justement des consensus. C'était ça. Mais pour nous,
c'était dit un peu péjoratif quand même.
C'était perçu péjorativement, mais c'était très clair que pour nous, et puis ça, c'était écrit noir sur blanc, puis c'est curieux que les gens oublient de nous le rappeler, c'était très clair que cette notion-là n'impliquait pas un retour à des formes d'art antérieures. Pas du tout. On a dit que c'était une impossibilité, que c'était une aberration de vouloir faire ça. On a dit que c'était à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, cet éclatement-là qui était peut-être possible de débusquer une soi-disant forme de vérité derrière le monde des apparences. Mm-hmm. Comme par exemple des disciplines zen peuvent le faire.
Parce que dans le livre, ce qui était très difficile, c'est que justement, il n'y avait aucun référentiel. Quand on parlait de l'art contemporain, c'est OK de faire une photo, mais on n'en parle pas dans le texte, c'est vraiment une illustration. Ouais.
Mais c'est que aussi, la forme du livre voulait ça. C'était pamphlétaire, c'était volontairement court. Mm-hmm. C'était le choix de faire un livre de 500 pages qui avait pris 5 ans à faire, ou un petit pamphlet de 125 pages. On aurait passé l'essentiel de nos idées pour justement qu'elles soient débattues. Mm-hmm. C'est ce qu'on a choisi de faire. Mm-hmm. Puis si j'avais à l'éditer, là, sur le TV d'ailleurs, il est épuisé, pas grand-chose qu'on change. Les détails, c'est l'histoire autour de Kant, qu'il faut préciser, tout ça. Mais pour le reste.
Le reste, ça voudrait encore. Moi, qu'est en écrire un autre, peut-être, pour le compléter.
Voir sur l'aspect dont je t'ai parlé. Mm-hmm. Parce que ça, c'est une recherche intéressante qui tourne autour de la notion de postmodernité.
Une chose aussi, j'ai remarqué, disons, dans tes critiques, t'es un gars extrêmement gentil, t'es pas brutal, fort, fort. Non. T'as tendance à une générosité, en tout cas, t'es pas mon style.
Non, parce que...
T'es plus dur. Bon, j'excuse le Musée des Beaux-Arts que tu tapes à tour de bras. Oui.
Quoique j'ai l'impression de très souvent.
C'est un parti pris volontaire.
De rejeter des choses. J'ai l'impression de.
Oui, il y a des fois, mais. Non, mais disons, c'est.
Tu penses une moyenne, toi?
Non, non, je veux dire, ordinairement, tu peux rejeter, enfin, l'article.
Ah, tu dis le type de langage.
Ou que jeune, notre blang-blang, mais disons que l'article est toujours.
Ah oui, ok, tu dis, je ne suis pas violent dans mes propos. Non, c'est ça. C'est pas un parti pris, c'est ma nature. C'est une autre chose, c'est une question. Le style, c'est l'homme. Si tu n'aimes pas le style, tu changes l'homme, mais tu ne peux pas changer le style. Puis moi, c'est ma façon. Je considère de toute façon qu'il y a tellement de phénomènes dans le monde, de choses qui peuvent être vraies pour certains et faux pour d'autres, que je ne vois pas pourquoi je fais volontairement violent. L'horreur de violence, c'est une forme de violence, de toute façon.
Donc, ton rôle de critique comme tel, à ce moment-là, c'est de permettre de laisser vivre ce qui pousse.
C'est de discuter les choses.
De discuter les choses,
mais on n'a pas besoin de violence pour discuter. Tu peux dire à un gars, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais sans y mettre ton poing dans la face. C'est à peu près ça. C'est comme ça que je vois la chose.
Parce que, par exemple, si je pense à l'exposition, je vais donner un exemple, là, comme ça. Si je pense à l'exposition bleue de Tousignan chez Graff, moi, je l'ai trouvé extrêmement décevant après celle du musée. Wow. Bon, lui, il est en train de se perdre carrément. Wow.
Je me souviens bien, je te demande encore de cette exposition.
Non, mais tu y es allé.
Je me suis exprimé. À toi, tu l'aurais batté.
Il aurait dit badin, ouais. Savoir-faire, Tousignan.
Wow. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. C'est ça, c'est l'école de Claude Gingras.
Ouais.
Puis il y a l'autre. Moi, j'aime mieux l'autre. Celle de Claude Gingras, peut-être rentable, là, si tu as fait des flammes mèches, puis tu reçois un paquet de lettres, et puis c'est une grosse bagarre. C'est pas mon tempérament. Pas en tout, c'est j'aime pas ça. Je ne m'intéresse pas. Je suis prêt à ouvertement discuter des choses avec les gens d'une façon civilisée. Je ne dis pas que c'est pas civilisé, là, parce que ça peut être très rentable ta façon de toi. Je pense que c'est une question de tempérament, j'ai pas d'explication.
Ça, je me demandais. C'est toujours l'article, toujours. Si une exposition est contestable, il faut peut-être même des fois l'oublier, c'est-à-dire.
Ouais, ben là, il y a le problème de choix qui ne se présentait pas quand j'ai commencé, c'est qu'il y en a tellement. C'était épouvantable. Alors là, il y a des contraintes matérielles, il y a des bonnes expositions même que je laisse tomber. Pas parce que je veux pas, je dis oui, je vais aller avoir. Je suis rendu le vendredi, puis Chris, comment ça, je vais aller avoir, j'ai pas eu le temps. Il faut mettre des cloches quand je dis Chris.
On verra. De toute façon, tu vas revoir la pente.
Alors, c'est ça.
Donc, toi, ta théorie, c'est que le milieu peut être dans une forme splendide. On n'est pas bête financièrement, mais au niveau des créateurs, on ne peut pas se plaindre, présentement.
Il y en a beaucoup.
Beaucoup de qualité.
Ils continuent à travailler. Il n'y a peut-être pas une qualité généralisée, une qualité, quantitative, mais il y a de la qualité. Je pense que oui.
Un à un, l'interviewé disait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de quantité, il y a beaucoup de quantité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, il y a de la qualité. Mais le niveau de qualité est à peu près égal et il n'y a pas d'œuvre signifiante, finalement, du milieu. Penses-tu ça aussi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre qui dépasse. C'est qu'on est à un niveau. C'est tout bien fait. Parce que c'est comme dit, tous les intérêts. Maintenant, les gens passent par les écoles, ils voient beaucoup de choses, puis bon, ils savent comment faire une chose de qualité.
Si on parle, il y a des gars qui sortent. Il y a des gars qui sortent. Je pense, je t'ai nommé tout à l'heure les plasticiens.
Oui, mais non, mais depuis les plasticiens.
Bon, depuis les plasticiens, il y a des gars maintenant qui sortent, qui pointent un peu, qui sont quand même un petit peu au-dessus des autres. C'est joli. J'étais très impressionné par exemple, par les gens. Bon, ça, les idées sont très partagées sur son travail. Mais moi, je trouve qui quand même pas dans la grosse moyenne générale. Elle surmarche un petit peu au-dessus de certains. Il y a des sculpteurs comme Roland Poulin, comme Pierre Grange. Il y a des peintres aussi. Bon, peut-être dans la nouvelle peinture, ça se vaut pas mal. T'sais. Il y a peut-être des petites têtes qui dépassent, là, mais pas un qui va. T'sais. Il y a une espèce de. Il y en a qui sont plus faibles, par exemple, Bibliothèque, pour moi, est plus faible que Raymond Lavoie, des choses comme ça. Mais ça, c'est vrai que ça se voit à ce niveau-là. Par ailleurs, dans la performance québécoise, à part de Robert Jacine, là, des gars comme ça, il n'y en a pas beaucoup non plus qui se marchent. Mais ça, c'est un nom qui est tout important, parce qu'il y a une espèce de sens créateur qu'on va retrouver chez certains grands artistes, soi-disant internationaux, ou européens, ou américains. Il y a du jus. Beaucoup de jus, beaucoup d'imagination. Puis quand tu fais une chose, tu es toujours surpris de l'ampleur de la chose et de la façon différente dont elle ressort. Faudrait que j'aie des listes, il y a tellement d'artistes, tu comprends, il y a des gars plus intéressants.
Parce que si tu n'en as pas nommé en peinture, tu ressembles bien que tu es là, qui
sortirait. Non, qui ressortirait, j'essaie de me creuser la taille. Il y a des bons peintres, mais qui ressortent vraiment. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ce que fait Raymond Lavoie, c'est certain. Parmi les jeunes peintres, je trouve que c'est un homme très, très intéressant. Peut-être difficile pour certains, mais très intéressant. Richard Mille, je le suis de très près, il m'intéresse, il produit de façon quantitative, qui m'effraie un peu, tu sais, je ne suis pas sûr de la qualité des choses.
Et à long terme. Une production illégale.
Oui, c'est ça, il en fait peut-être trop, il n'y a pas toujours des bonnes choses. Tu sais, je pourrais te dire Sylvain Cousineau, un mec qui n'est pas comme les autres. Je ne sais pas, ça fait pas assez longtemps que je le suis et je le connais.
C'était un jeune, il n'était pas tellement à disposition.
Bon, des gars importants comme Pierre Bogart, tu m'intéresses énormément. Mais qui ressortent, c'est pas le ténor, c'est pas le peintre. Tu sais, on a pu, comme on avait autrefois, c'est vrai, ce que tu dis, dans un payant. Mais je pense que c'est quasiment fini, ces histoires-là. Il en reste plus beaucoup. Dans le monde, des gens qui ressortent par-dessus les autres.
Ben, évidemment, ils sont assez âgés.
Pour un open end, tu vas trouver autant d'artistes intéressants ailleurs, de cette qualité-là.
J'ai le bras Joseph Boyce qui, lui, sort de l'art pour passer ça.
Tu sais, non, il y a des petits Goodwin, fameux, très intéressant, mais est-ce que c'est une personne qui ressort? Tu comprends dans cette question-là, le problème, c'est qu'on n'a pas des talons pour mesurer. Tu les prends un par un, tu peux te plonger longtemps dans ces œuvres-là, puis trouver des choses absolument renversantes pour toi. Tu sais, je pense à Mialcine, ses sculptures aussi, c'est fabuleux, c'est des petites choses colorées. Tu sais, il y a une espèce d'imagerie quand même intéressante là, tu vois. Qui ressort, qui tranche de ce qu'on connaît en sculpture. Mais comment le mesurer? Comment mesurer Mialcine avec Michel Goulet, puis comparer à Pierre Grange? Pourquoi il est plus bon? Puis, tu sais, c'est des démarches quand même, étant donné que ça repose tellement sur l'espèce d'inscription là, de l'individualité ou du corps à la personne, pour employer des termes en mode, de chacun des artistes que tu as plutôt de repère pour les comparer.
Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le clivage du temps non. pour le faire. Dans 5 ans, peut-être, ouais. ce sera déjà plus facile. Ouais.
Puis là, avec, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui ressort?
On n'est plus au 17e siècle, on n'a pas le temps. Pour Roger de Pelle s'est essayé, puis peut-être.
Ce serait important si cette personne-là, manifestement, nous fournirait ou fournirait aux artistes actuels un consensus. Mais s'ils ressortent actuellement, certains artistes, c'est pas à cause de ça. À cause de l'intérêt de l'homme individuel, qui elle-même ne repose pas sur une espèce de consensus de civilisation.
Mm-hmm. OK. Je vois un peu comment ta position s'articule.
Puis aussi le danger dans ça, c'est que tu peux facilement devenir doctrinaire. Si tu veux durer, tu veux écrire pendant 10 ans, je fais, tu peux pas devenir doctrinaire parce que 2 ans, 3 ans, puis salut, on va faire autre chose. Mm-hmm. Quelle sentier.
Bon, c'est pas juste ça, c'est le fait que...
Moi, je suis pas gêné de le dire, c'est vrai.
Parce que, quand j'étais à la presse, je me disais, bon, les mêmes reviennent, et là, est-ce qu'on les... comment on va les reprendre? Parce qu'eux, ils sont souvent au même point. Pour dire que 71 ont quitté la presse, c'était une année assez difficile.
Il y a eu des queues, aujourd'hui, ils m'ont dit, il y a eu des années, je courais les sujets. Puis là, maintenant, les sujets me courent. C'était épouvantable, normalement. Je reçois 100, 150 lettres par semaine. J'ai la folie, tu sais, je pourrais aligner facilement 50. Tellement que les expositions carrément médiocres qu'on visitait dans le temps, tu sais, avec Bogardier et tout ça, on avait des fun noirs, on passait 2-3 jours par semaine, on voyait 15 galeries, mettons. Je suis allé sur le salon de Dune depuis des années, puis on allait, voir toutes sortes d'artistes, là, des gars comme ça. Là, maintenant, c'est... C'est tellement pas important, ces artistes-là, que tu y vas plus, hein. Puis tu te fais achaler, hein. Ces gens-là, téléphones, ils font des pressions. Je pense que ça fait assez longtemps que je dois mes choix. Puis c'est même valeur à dire, mes choix sont limités, peut-être une quinzaine de jours, sur 80.
Parce qu'il y a un déplacement, en fait, qui s'est fait durant la période. Est-ce que c'est significatif, c'est-à-dire des galeries vers l'Est? ce qu'on a pu dans l'Ouest des galeries, c'est OK, il reste Waddington, mais quand est-ce que tu vas chez Waddington, ben, il reste.
T'as Stewart, des galeries comme ça qui de temps en temps vont sortir des choses intéressantes, mais c'est pas nécessairement du milieu. Mm-hmm. On n'a pas tellement poussé à aller voir maintenant les gars qui sont pas du milieu, parce qu'on a beaucoup de sollicitations du milieu. Tant qu'on va faire un tour à motivation, on sent plutôt intéressant dans le paquet qui sort. Mais les galeries établies présentent de la poutine maintenant.
Présentent du fric.
Ce qu'on trouvait intéressant autrefois.
Qui était valable en 70.
Sur le plan théorique, là, tous les critiques, ils vont plus. C'est quasiment systématique, à part de Lawrence Sadot, malheureusement.
Ben lui, il vient pas dans la tête, s'il achète pas.
C'est ça, c'est très intéressant, cet aspect-là. J'ai jamais réfléchi.
Parce que tout le déplacement sur l'axe Saint-Denis, Saint-Laurent, quelque chose. Présentement, le milieu, c'est Saint-Denis, Saint-Laurent. C'est tout classé là-dedans, presque. Quelques exceptions près.
Je sais pas si dans ton livre, tu as l'intention de parler de la sous-structure, ce que j'appelle, du support économique, socio-économique, des musées.
On ne peut pas éviter.
Si l'art québécois existe, c'est quasiment pas à cause des musées. Parce que c'est inouï, comme c'est pauvre de ce côté-là, sur le plan du soutien.
Si je regarde le musée des Beaux-Arts que je connais plus, je sais que dans une période de programmation, depuis Tousignan, que j'ai fait. L'an dernier, décembre dernier, janvier dernier. Mais je pense que les trois prochaines années, il n'y a pas de Québécois au musée.
Non. C'est intéressant. Hey, tu sais que Tousignan, en parenthèse, va passer dans l'art actuel, pas l'art actuel, la nouvelle. Oui, c'est l'art actuel, art 83. C'est un livre.
Le Skira annuel, là?
C'est pas le Skira, c'est un autre qui est fait par une grosse maison, l'Autosmet. Ça va être publié en anglais à New York, ou en japonais à Tokyo, en allemand à Berlin. Et puis, je vais en avoir un exemplaire parce qu'ils ont pris des extraits, comme ça je l'ai su, d'articles sur Tousignan, ils m'ont donné la permission. Puis ils vont passer des photos, ils vont envoyer des photos.
Eh ben.
Des trois grandes œuvres de Tousignan. Les deux grandes.
Les deux grandes constructions.
C'est ça. Et puis, ils vont être là-dedans.
Eh ben. Okay. Comme quoi, ça à Tousignan, c'est
important. C'était majeur, ça aussi, cette chose-là. Ça, c'est un peu intéressant parce que d'une certaine façon, même si Molly est dans le chemin de la lettre, on peut le dire, cette exposition-là, pour lui, démontre qu'il ne s'est pas arrêté justement à une réflexion nécessairement plasticienne mais confinée à la modernité. Qui agit indépendamment du créateur, de chaque créateur, d'un créateur donné. Je n'ai pas la réponse immédiate, là, mais à cause de ce que tu as dit tout à l'heure, ça me fait penser que, oui, c'est quoi qui fait qu'un créateur donné va agir au Québec? C'est quoi la contrainte? Puis ce qui est peut-être intéressant d'étudier à l'intérieur d'un projet comme le tien, c'est quelles sont les motivations ou par quel processus de valorisation de son art un artiste doit-il passer? Pour devenir un artiste ou être considéré comme tel, hein. Quels sont les processus de valorisation de l'art au Québec? Maudite question. Est-ce que c'est la critique? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais en partie, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ça parce qu'elle existe, mais elle n'est pas considérée par l'ensemble de la population. Comme une partie suffisante de la population.
Même par les intellectuels.
Même par les intellectuels, comme étant significative. Alors que dans les milieux anglo-saxons, même comme aux États-Unis, même peut-être un peu dans l'Ouest, mais pas tellement, elle est par tradition importante. Critique d'art, en tout cas. Je pense pas qu'ici, la critique d'art ait, par exemple, une influence sur les codes. Bon, est-ce que c'est le marché qui valorise le créateur au Québec? Je crois pas. Sauf après 20 ans de carrière, des fois. Et
puis encore.
Bon. Finalement, ce qui reste, c'est les institutions. C'est le Conseil des arts du Canada, c'est les galeries, la Galerie nationale, les musées importants, qui vont acheter, qui vont faire entrer ces artistes-là dans la collection.
Des expositions.
C'est à peu près le seul système de valorisation d'un objet d'art. C'est un système qui est extrêmement politique actuellement.
Politique de quelle façon? C'est-à-dire politique nationaliste ou bien parce que tu as le fédéral?
Non, politique parce qu'il appartient aux structures politiques, c'est ça.
Là. OK,
c'est
ça, tu sais. Dans ce sens-là.
Bon, mais quelle est la nature de cette politique-là? Là, c'est un autre débat.
On dit que les artistes seraient des commis de l'État pour les institutions.
Non, non, c'est pas ça que je dis. Peut-être, là, mais je dis que s'ils veulent être valorisés, ils sont obligés maintenant de passer à travers les collections nationales. Là, quand un gars d'une collection nationale, c'est parce qu'il est bon. Comment un gars rentre d'une collection nationale? Bien, c'est peut-être là qu'on s'approche vraiment du processus de valorisation. Qui fait entrer les gars dans les collections nationales, les artistes?
Conservateurs.
C'est des conservateurs. C'est peut-être des gens compétents. C'est peut-être ça la question qu'on devrait se poser. C'est peut-être des gens compétents. Donc, peut-être que le processus de valorisation est bon, même s'il est politisé. On ne peut pas dire que la collection de la Banque d'œuvres d'art du Canada est une mauvaise collection.
Non,
il y a des mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses. On ne peut pas dire que la collection du Musée d'art contemporain, même si c'est fort incomplète et mal gérée, c'est une mauvaise collection. Il y a des choses intéressantes.
Celle du Musée des Beaux-Arts.
Celle du Musée des Beaux-Arts est jeune un peu, ce plan-là. Hein? Je ne la connais pas assez aussi, je dois dire, en art
québécois. Je peux te dire une chose, c'est qu'elle est difficile à connaître puisqu'elle n'a pas d'objet. Mm-hmm.
Donc, une valorisation institutionnelle est-elle une bonne valorisation? Qu'en est-il de la valorisation esthétique? Qu'en est-il du produit? Qu'en est-il de l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art, en tant que objet symbole à la société? Je pense qu'il est très peu valorisé, de mon point de vue, par exemple, par l'ensemble de la population. Mm-hmm. Heureusement, on nous dit qu'il y a des institutions politiques pas qui valorisent un peu, parce que ce serait épouvantable. Là, c'est moi, j'ai plus de collectionneurs. Il y en a très peu. Puis ces gars-là vont acheter 50 ou 60% de leur collection à l'étranger ou des œuvres qui viennent d'ailleurs. Dans ce sens-là, plus j'en parle, plus je me trouve pessimiste et triste. Comment l'œuvre d'art est valorisée au Québec? Quelle est l'obligation de la création qui agit indépendamment du créateur ici? Est-ce que le créateur tient cette valorisation-là? Mon expérience personnelle, peut-être la tienne aussi, démontre que oui. Hein?
Oui.
C'est le struggle for life.
Dès que tu leur fais une exposition, mon Dieu,
c'est ça.
Ils sont là, ils sont très rares.
Il y a une concurrence très, très âpre entre eux aussi. Ils se tirent d'un genre, des bois.
Ils tirent d'un genre des collections, d'un conservateur en plus.
Ça m'est...
On a vu Marcel Ferron dans le temps.
Ah oui, c'est ça.
Ça, c'était un autre, c'était un problème de génération.
Mais... Oui, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connaissance de l'objet symbolique comme tel, sauf dans les milieux, dans le milieu, tu vois, et le milieu n'a pas trouvé la façon de s'ouvrir, de se créer des parts pour que ça transpire à l'extérieur.
Je suis d'accord pour dire que, moi, je le pense, là, que le milieu artistique est un ghetto. C'est-à-dire qu'il vit à par ses membres, à l'intérieur de ses membres, c'est-à-dire...
Oui.
Si on arrêtait les écoles d'art, je pense qu'on arrêterait peut-être l'art, bon, qu'on le changerait complètement.
Ouais, il est très peu communicant. Tu sais, c'est pas le système des vases communicants, pas en tout cas. Tu sais. Ghetto, c'est peut-être fort, c'est peut-être ça aussi. Je sais qu'il est fermé, complètement, la constatation.
Parce que le truc, ce qui est remarquable, c'est le fait, ce qui doit être remarqué plutôt, c'est le fait qu'avec les autres... culture ou les autres langages, puis les créateurs, que ce soit la littérature, le cinéma ou autre, où sont les ponts? Non, est-ce qu'il y a des traces? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a communication? La littérature s'entend avec le cinéma.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que les arts plastiques s'entendent avec la littérature? Mm-hmm. S'entendent avec le cinéma? C'est-à-dire si on exclut des essais, par exemple, de gravures d'un livre, on est encore dans les vieilles solutions.
C'est très difficile, parce que je pense que c'est le mode d'expression en soi qui impose cette espèce de retranchement-là, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que les arts plastiques sont un des modes privilégiés d'expression très sérieuse de nos sociétés. En le sens que je disais tout à l'heure, c'est un mode d'expression difficile pour la majorité des gens, en tout cas à lire, à percevoir, à comprendre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de temps. C'est peut-être parce que notre époque est complètement appauvrie sur le plan intellectuel. perdre la connaissance.
La TV a bouffé ça.
Entre autres. Il n'y a plus de place pour ces choses-là. Il y en a un peu quand même. Parce qu'on... Mais c'est toujours des choses spectaculaires. Alexandre Blake, tant qu'à mon compagnie.
Picasso.
Picasso.
Riopelle au Québec.
Ouais.
Un gars d'ailleurs.
Mais hein, c'est peut-être un chinois qui fait des histoires de processus de valorisation de l'objet d'art au Québec. Parce qu'il est, il est pas mal différent des États-Unis, étant donné que là-bas, il y a tellement de collectionneurs. Puis, peut-être une activité critique, parce que les centres sont plus grands, plus importants, plus la diffusion. Mm-hmm. Les journaux sont quand même plus tout
le temps.
Les revues.
Quoi, c'est surprenant. Si tu regardes une revue comme Art Forum, avec toute cette diffusion mondiale,
ouais, mais ça,
24 000 copies.
Ouais, mais ça, c'est très hermétique comme revue. Moi, je pense là au gros réseau de diffusion comme Newsweek, Time Magazine, puis New York Times, puis Village Voice, puis tu sais, des choses qui sortent à plus qu'un million d'exemplaires. Là, ça commence à être important, ça. Mm-hmm. Puis c'est lu en s'il vous plaît, ces pages. C'est pas pour rien que Hughes au Time Magazine, il passe... 3 jours à Londres, 2 jours à Venise, puis il est tout le temps sa trotte, le gars, puis il fait un article par mois, à peu près, gros comme ça, puis il est payé très bien. C'est que c'est rentable. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui achète le Time Magazine juste quand Hughes publie sa page. Comment ça se fait? Évidemment, il choisit les expositions plus spectaculaires partout dans le monde, c'est assez facile, là, ce mais c'est lu, c'est, ça intéresse le monde. Puis il est pas, c'est un très bon vulgarisateur.
Parce que la chose que je me demandais, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on est suffisamment ouvert à l'art international? Parce que ça intéresserait le milieu, quoi qu'on dit ça au Musée d'art contemporain, on en a fait.
Ouais.
Si on excuse le fameux party, party de Judy Chicago, là, c'était le seul cas. Ça puis Tintin. Les deux grosses expos.
On n'est pas suffisamment ouvert, de mon point de vue. Parce que si on pouvait créer une espèce de tradition, je ne dis pas d'envahir la scène, mais de faire circuler l'information d'une façon normale et régulière dans le temps. Pareil comme, je ne sais pas, moi, les musées à Amsterdam vont faire, puis même ils vont prendre du monde de Pologne n'importe où. Puis, tu sais, il y a une espèce de courant, il n'y a pas de frontières, autrement dit. Bon, ces gars-là viennent. Puis les Hollandais ont leur place, une place majoritaire quand même. Mais on n'est pas suffisamment ouvert, c'est juste ponctuel. C'est juste, tu sais, c'est genre, tu fais Oppenheim 10 ans trop tard, tu fais, tu sais, des choses en retard. Pourquoi il n'y a personne d'incrusté dans le milieu? Pourquoi il n'y a personne d'incrusté dans le milieu? Parce qu'il y a une espèce de fonctionnalisme qui est installé à l'intérieur des institutions. Si tu veux t'incruster dans le milieu, si tu veux connaître les choses importantes qui sont actuellement dans le monde, tu es obligé de remplir des formulaires à plus finir pour avoir le droit d'aller faire un petit voyage à New York pendant 24 heures. Ça peut arriver, tu sais, pas à ce niveau-là de compréhension du rôle de la conservation au musée. Voilà. Et il y a un mépris que je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, puis je l'ai dit très souvent, il y a un mépris des professionnels de l'art, de la part des instances politiques. Parce qu'on ne les reconnaît pas comme parce qu'on ne comprend pas l'art, parce qu'encore une fois, on vient au problème d'ignorance.
Puis parce qu'aussi, j'ai peut-être pas la valeur plus rentable.
Politiquement, et...
T'es mieux de financer Jean Duceppe, c'est plus payant, même si lui n'a pas besoin de financement.
C'est ça. Là-dessus, je pense que ce que je te dis là, depuis une heure, je ne comprends pas grand-chose. Mais on devrait s'ouvrir davantage à ces choses-là, et puis c'est très stimulant pour ce qui se passe ici. Puis c'est pas un rejet, puis c'est pas comme beaucoup d'artistes vont faire, là, quelque chose de... Tu sais, regarde l'histoire de Viola. Moi, j'appelle ça carrément du vandalisme. Mm-hmm. J'ai fait mon compte-rendu, là, il y a un professeur Lucan de Duc m'écrit, qui me dit que j'étais le pire con parce que j'avais pas appelé ça un happening. Bon, c'est correct, j'ai dit, on va aller défoncer chez vous, on va appeler ça un happening, on va défoncer des vitrines, on va saccager les propriétés privées, puis that's it, c'est l'art. Puis c'est fait par des artistes, c'est
donc,
l'art.
Le plus grand art qu'on a eu, c'est le bingo à Chambault, on a tué 4.
C'est intéressant, Viola. Moi, pourquoi les artistes québécois ne pouvaient pas se confronter à Viola? Puis j'en ai vu une dizaine depuis que l'exposition Viola est commencée, qui m'ont dit, hey, c'est intéressant, je ne pensais pas que c'était comme ça. Puis il y avait du gars, tu sais, quand on fait ça. Bon, positif.
D'autant plus que Support Surface, on en avait beaucoup parlé, mais on n'avait jamais vu.
Non, c'est ça.
Mais là, ils vont voir maintenant les jeunes de Bordeaux qui s'en viennent.
Ah, j'ai vu à Bordeaux l'expo. Il y a des choses intéressantes. Des choses bizarres aussi, comme les nuits. Des espèces de petites étoiles avec des plumes, des affaires sur nous. Mais c'est intéressant. des choses moins bonnes que d'autres.
Mais justement, si tu penses à une exposition comme ça, penses-tu, si tu regardes le milieu ici, c'est une exposition qui doit être pour très attention, c'est plus tourner en attaque personnelle contre les héberges de la part. Que ça doit être montré ici. Quand on a des jeunes qui ne sont pas montrés dans le musée, parce que la dernière exposition
wow,
de jeunes,
wow. Ça, là, il faut faire attention. Ça, c'est l'excès contraire, tu vois. Tu montres juste ce que tu trouves toi intéressant parce que tu es conservateur ailleurs, mm-hmm. puis tu montres pas ce qui est intéressant ici, sauf tes 3-4 chums que tu considères importants. Mm-hmm. Mais ça, c'est des problèmes très personnels, très ponctuels. Mm-hmm. Alors, tiens, M. Timberge. Faire attention.
Pouvons-nous parler d'un art québécois?
Ah oui.
Je pense présentement.
Je pense que tu connais la réponse. Parler d'un art tout court.
Mm-hmm.
Si on parle d'un art québécois, c'est tout simplement parce qu'il est fait au Québec. Mm-hmm. Après, on parle d'un art français parce qu'il est fait en France.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de caractère ethnologique particulier à l'art québécois qui fait qu'il est plus québécois qu'autre chose. C'est un art qui est influencé par le milieu, par le contexte québécois. Donc, il prend certaines directions parce que, évidemment, ces gens-là se côtoient, ces gens-là s'influencent. Mais moi, dans le sens nationaliste du terme, je le dis, j'ai toujours dit non.
Moi, je tiens à dire les nationaleux, comme tu disais.
Nationaleux, ça, c'est vraiment l'aspect le plus, le plus réactionnaire du nationalisme.
Mm-hmm.
C'est un chauvinisme exacerbé que je ne comprendrai jamais. Parce que c'est fondé sur quoi? Sur rien? Sur une espèce de... C'est quasiment dangereux. T'sais, c'est fondé sur une conception de la race, à peu près.
Mm-hmm.
On a vu ce que ça a donné. Hein.
Parce qu'il y avait la théorie de Albanca, à savoir qu'il faut une culture québécoise, et après ça, il serait possible d'avoir un art québécois.
Mm-hmm.
Il me semble qu'il marche un peu à l'envers. Voilà.
Mais tu vois, étant donné justement qu'on parle d'absence de consensus, c'est sûr qu'il n'y a pas de culture québécoise, qu'il n'y a pas plus de culture... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art vraiment québécois parce que l'absence de consensus est généralisée partout. Pour qu'il y ait un art identifié à une nation, il faut qu'il y ait un consensus à l'intérieur de cette nation, lequel consensus devrait se démarquer de celui ou de ceux ou de l'absence de consensus des autres nations. Mm-hmm. Exemple, la Renaissance italienne.
Mm-hmm.
Bon. C'est... Non, il n'y en a pas. Les grands arts nationaux, c'est des arts universels quand même. Je pense à l'art hindou.
Ça, c'est des arts traditionnels, en fait, sur des siècles,
c'est
des
ça,
millénaires.
Exactement. Ils sont nationaux parce qu'ils reposent sur le même consensus mystique.
Mm-hmm.
Et puis, c'est un phénomène qui a lieu dans telle région. On peut dire la même chose du bouddhisme, on peut dire la même chose. Alors que là, c'est supranational, même le bouddhisme, c'est pas national.
Parce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une différence entre Montréal, entre l'art montréalais et l'art du reste du Québec?
Oui. Oui, il y a une différence au niveau quantitatif,
c'est ça.
Puis au niveau qualitatif, forcément, parce que la quantité appelle plus de qualité. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un phénomène sociologique, c'est un plus grand ensemble, il y a plus de monde.
Mm-hmm.
Donc, il y a un phénomène d'émulation qui est plus important, ou de stimulation qui est plus important, mais ça, c'est la même chose dans tous les pays, pour les grandes villes.
On pourrait dire qu'il y a l'art des grandes villes, il y a l'art des campagnes, des villages.
Puis même, est-ce que ça existe, l'art des campagnes, des villages? C'est les gens qui font des choses dans les villes secondaires, dans les campagnes, c'est souvent des gens qui essaient de se rattacher au centre.
S'il y a un gars comme Bill qui est de Québec, si on pense bon moment, rendu à Montréal.
Ben oui, sa galerie est à Montréal, et puis c'est un peintre qui fait un art centralisé, l'art québécois contemporain est urbanisé, comme l'art américain est urbanisé. Le reste, c'est des phénomènes. Mon avis secondaire. Peut-être parce que. Est-ce qu'il existe ces artistes-là dans les campagnes? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose.
Il y a une autre question aussi. Est-ce que tu penses que les galeries jouent leur rôle? Ils servent de leur jugement, les galeries privées.
Quel est ce rôle?
Ben, c'est-à-dire dans le milieu, le distributeur, le diffuseur-distributeur.
Mm-hmm.
Considères-tu que l'action des galeries est importante?
L'action de certaines galeries est importante. Parce qu'elle est sincère et authentique en ce qui concerne l'intérêt que ces gens-là portent pour le phénomène artistique.
Mm-hmm.
Il y en a très peu, mais il y en a qui sont intéressantes, je pense. Tu sais, des galeries comme la galerie France Morin, les galeries où il y a de la qualité, là, je pense à même Pierre-Prend, quand il fonctionnait un peu plus, je pense à Yajima, je pense à... aux galeries importantes de Montréal, je pense que ces gens-là sont sincères. Il y en a d'autres, c'est facile à voir. C'est carrément des marchands, puis leur premier but, c'est la commercialisation de l'œuvre d'art, indépendamment souvent de la qualité. Il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils marchent dans le commerce. Et ça, on peut faire un inventaire, si tu veux, là-dessus. Alors, aussi. Ceux-là, ils jouent peut-être un rôle, mais c'est vraiment le leur, mais ils ne jouent pas un rôle important pour l'ensemble.
Et des galeries parallèles.
Ouais,
des titres parallèles ou des.
Parallèles, ouais. Mais il y en a si tu veux.
Ben, ça doit être Articulte, Motivation, Optica.
Ça, c'est important, je pense.
Véhicule reste un peu ouvert.
Prime vidéo, etc. Ça, je pense que c'est important parce qu'ils ont un rôle, effectivement.
Et est-ce qu'ils le jouent?
Au niveau de la recherche. Est-ce qu'ils le jouent? À mon sens, pour les galeries parallèles, il y a un problème actuellement qui repose sur les individus en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui sont peut-être pas encore assez au courant ou assez alertes pour discerner entre le bon et le mauvais, de telle sorte qu'ils font souvent une très mauvaise réputation ou un grand tort en exposant des choses d'intérêt secondaire. T'sais, ils n'ont pas encore la capacité, ces gens-là, souvent des jeunes, des gars qui font pas longtemps qu'ils sont là-dedans. Je pense à la motivation, c'est une espèce d'inégalité dans ce qu'ils présentent qui est incroyable. C'est des fois, on se retrouvait à la SAPQ dans le Vieux-Montréal en 1974, quand tu rentres là, tu dis que ça fait là. Alors que d'autres fois, ils vont chercher un gars, tu dis, waouh, comment ça fait qu'ils l'ont sorti au début de l'année, tu sais, pourquoi, c'est quoi? Tu sais, il y a une égalité, ils ne jouent pas leur rôle dans le sens qu'ils ne sont pas très exigeants envers eux-mêmes en ce qui concerne la qualité. La question de la qualité, c'est le grand épouvantail à Moineau au Québec dans les galeries parallèles. Actuellement, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais, tu sais, à l'époque, ils prenaient tant de véhicules, il y avait plus un petit peu de qualité, il me semble. On allait chercher
Optica
des
gars.
Optica aussi, depuis que Bill est parti, ça va comme ça. Les jeunes qui dirigent les galeries, c'est souvent des artistes, les galeries parallèles. Ils ont assez peur de se prononcer, de prendre une décision en ce qui concerne la qualité. C'est peut-être légitime dans le sens qu'ils n'en ont pas encore assez vu. Mais c'est le problème pour moi.
Parce que c'est un truc pour des galeries parallèles. C'est le système qui devait justement pousser les autres.
Mais mon gars, par voir, c'est la même chose, ça va en entier. Mais à part ça, c'est que aussi ces gens-là changent rapidement. Ils font un an, deux ans, puis c'est la formule, hein? Puis là, c'est une autre direction. Complètement. Alors là, les autres, ils partent sur une autre balloune. Et puis des fois, tu tombes sur une bonne équipe. Puis deux ans après, tu tombes sur une mauvaise équipe. Alors c'est tout à fait là. Hein? On peut modifier une espèce de tradition de qualité.
Tu n'as pas peur que ça aussi s'instaure au musée d'art contemporain avec les programmes que j'ignore ou quoi? Les rumeurs, quand on a des rumeurs, c'est des comités d'acquisition qui viendraient de je ne sais pas trop où d'ailleurs.
Moi, ouais, ça, je suis absolument contre cette chose-là. Moi, je suis pour une valorisation des gens, des avertis des professionnels, parce que c'est le temps, c'est la. C'est la confrontation permanente avec les individus, les objets qui fait que tu es capable de discerner le bon du mauvais. Pour que ça, tu sais, à longue échelle, pour que dans 20 ans, tu te dises, ah merde, tu puisses pas dire, ah merde, regardons l'affreuse collection, moi, c'est sûr qu'on a acheté ça. Ça prend des gars qui ont du guts, qui ont une sacrée formation, pas nécessairement universitaire ou scolaire, mais individuelle, tu sais, une espèce de rigidité, de rigueur, oui, puis de pas facile, hein? C'est toujours un problème d'individu. Mais aller chercher comme dans certains comités là, actuellement, à Québec, du 1%, n'importe quoi, des gens qui sont absolument extérieurs au milieu pour choisir des objets pour des collections permanentes qui devraient passer à la postérité, etc. C'est une aberration très dangereuse.
Je sens qu'on n'en est pas débarrassé de ça.
Non. Tu sais, c'est vraiment encore l'espèce de phobie de ne pas être démocratique. Alors que c'est pas pertinent cette question de la démocratie-là quand il y a le temps de choisir des objets, des objets symboles, on dirait. C'est absolument pas pertinent parce que pour moi, c'est un problème de qualité, c'est un problème de démocratie.
La même chose qui était remarquable, c'est que les travaux publics à Ottawa ont resté de 1,5%. Parce que les comités étaient professionnels. Donc, c'était pas des bonnes pratiques.
Ah oui, c'est ça. Puis les affaires que...
qui le ministre n'aimait pas, qui était au public, c'est ça. C'est pas fort.
On n'en sort pas de toute l'histoire.
Ouais. Regarde juste le gag de la Galerie nationale. Ah. Tu dis qu'ils ont rendu à 78 bureaux d'architectes visités pour le faire. Hein?
C'est vrai, pas pour dans le
temps. C'était pas dans la presse, ça. Il fait dans la presse.
Je n'ai parlé, mais je me souviens pas ce que j'ai dit.
78 galeries, donc récemment, c'est vrai.
Ah, le con, il y a eu des 78 participants au concours, c'est ça?
Non, ils visitent des bureaux, il n'y a pas de concours. Et après ça, la décision sera prise par le Conseil des ministres. Ah. Quel bureau d'architecte?
Sur la recommandation de Gino, je suppose.
Oui, mais qui va amener. Okay. Tu vas donner la recommandation du coup.
Fantastique actuellement, le coup de télécommunication nationale, il n'y en a pas à Montréal, dans les deux musées. Et puis il y en a un fantôme au Québec.
C'est qui le directeur qui a la chapelle?
Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est ça. C'est le grand danger. Tu as vu récemment, j'avais mis la main sur une note interne du ministère des Affaires culturelles en ce qui concerne certains comités pour le musée d'art contemporain. C'est peut-être ce dont tu me parles. Le faire pas pour les acquisitions, en programmation, je pense, dépend des comités improvisés avec des personnes de l'extérieur, avec un système, finalement, le dernier à prendre la décision là-dedans, ce serait le conservateur. Un système de statistiques, tout le monde a le droit de soumettre un projet d'exposition dans n'importe quel milieu, et le musée était tenu de faire la liste de ces projets-là et de toutes les discuter un par un. Et avec des comités formés à partir de personnes qui ne travaillent pas dans le musée.
Comme donc,
des gens de l'extérieur.
Comme des jurys.
Et là, on décide du contenu des expositions. À partir de ça. Ça, c'est une suggestion de Juno. Moi, j'ai intercepté la missive, j'ai fait un article là-dedans, où j'ai dit carrément que s'il n'était pas capable de faire son travail comme il faut, qu'il démissionne. Alors, il paraît qu'il était en maudit. Il n'a pas pu me répondre parce que Clément Richard, il ferme ta boîte. Mm-hmm. Puis le projet est retiré.
Wow.
Ben, ça, c'est quelqu'un du musée qui m'a téléphoné. Dès qu'il y a eu le document, on comprend les autres, hein, ils ont lu, ils nous ont communiqué. C'était leur seule façon de se défendre, si tu veux.
Tu ne pouvais pas répondre d'eux avec Juno, c'est leur boss. Non, mais là, on se réenasse un peu dans le
cas. Excuse-moi, oui.
Non, mais c'est...
On ne se voit pas souvent, alors...
D'accord, sans les doigts. Qu'est-ce que tu considérais? As-tu quelque chose que tu aimerais rajouter, là, si tu as dit?
C'est un sujet indéterminant.
Parce que tu as fait pas mal de tours, comme tu dis, quand on arrive avec la notion de non-consensus qui est réel,
oui.
C'est très difficile d'analyser un milieu, puis c'est plus de milieu.
Bon,
on tombe à analyser des individus.
C'est ça, il y a un milieu physique, il y a un milieu géographique, il y a un milieu social, parce que le milieu de l'art, c'est les gens se voient, les gens se connaissent, mais il n'y a pas de milieu esthétique de point de la dimension, si ce n'est celui de l'individualité.
Mais parce qu'il y a aussi une chose qui nous manque, c'est-à-dire, quoi qu'on en a, c'est qu'il n'y a pas, disons, de lieu, parce que les musées l'ont raté, il n'y a même pas de lieu physique de rencontre pour les artistes.
En plus, s'il y avait un centre extrêmement stimulant, puis professionnel, tu sais, comme il y a, pardon, dans certaines autres villes, il me semble que ce serait un point de règlement absolument extraordinaire. Mais le musée d'art contemporain au centre-ville, mais il y a du personnel compétent, un directeur dynamique, intelligent, un budget.
Puis une cafétéria avec bière.
L'art québécois change en 10 ans. C'est sûr. Mais ça, ils ne comprennent pas.
C'est ça qui est grand. C'est un des grands drames, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la place publique. C'est-à-dire, oh, parce qu'il y a une chose que les universitaires arrivent. Je suis rentré à étudier Greenberg. Ça, c'est bien beau, mais bon Dieu. C'est pas une urgence.
Non,
j'admets que ça doit être fait, mais il devrait y avoir autre chose.
Oui, d'accord.
Mais est-ce qu'il est possible de faire autre chose? On n'aura jamais efficace. Là.
Non, c'est ça. Et puis à part ça, c'est pas tout le débat théorique. Là, il est important. Il va toujours tourner autour de ça. Actuellement, ce qui est urgent, c'est de créer une espèce de stimulation au niveau de la création. Puis pour ça, il faut aller voir les choses des gens. Il y en a beaucoup, on ne les voit pas beaucoup parce que justement, on n'a pas de place pour les montrer suffisamment. Tu sais, les lieux ne répondent pas à la demande. La demande est quand même importante. Il faudrait au moins voir la production de chacun des peintres actuellement, qui est relativement valable, au moins une fois tous les deux ans à peu près. Pour qu'il y ait une confrontation. Ça sort une fois par cinq ans, là, t'es voit tout d'un bloc, trois tableaux chacun, puis c'est datif. C'est pas assez. Alors qu'est-ce que tu fais, toi qui est dans le milieu, tu es obligé d'aller voir les petites galeries quand il y a des expositions de ces gens-là, encore une fois, c'est pas suffisant, tu es obligé d'aller dans les ateliers si tu veux être au courant. C'est pas. Moi, je suis en train de faire un texte sur la jeune peinture québécoise. Normalement, ça devrait être ma thèse, je sais pas si je vais finir à temps. Ben, j'ai de la misère, hein, parce que je suis obligé de rencontrer les gars un par un pour voir le stock. Il y a bien des choses que j'ai pas pu voir dans la galerie. C'est pas hier. Ils ont fait pas mal de choses, ces gars-là, depuis 5 ans. C'est pas disposé à assez. Et puis, en plus de ça, si physiquement et institutionnellement, il y a des grandes lacunes, c'est sûr que théoriquement aussi, la situation de l'art international et même c'est dynamique et complexe et c'est à cause de cette absence de consensus-là. Et puis, il y a un gros problème d'information parce que c'est devenu monstrueux comme infrastructure. C'est tellement. Ça a changé. Depuis les 112, depuis la Documenta 5, à la Documenta 5, on a pu faire le tour de tout ce qui se passait. En un seul lieu, en une seule fois, en une seule place. C'est plus possible. Toutes les autres documentaires, ils ont manqué leur coup parce que ça se peut plus.
Quand c'est fait, il n'y a pas de
droit. C'est trop. Cette documentaire-là a tellement créé une espèce de prolifération. C'est chaque branche ou chaque thème de cette documentaire-là a créé quasiment un mouvement ou une voie d'engagement artistique partout à travers le monde. C'est devenu une espèce de tentacule fabuleuse. Alors, il n'est plus possible maintenant de trouver dans chacune des branches les bons artistes, les mauvais artistes.
Mais il y a aussi une chose, on ne les a pas fait, les autres documentaires.
On ne les a pas
fait. On les a tenus, mais on ne les a pas construites.
Mais non, mais
c'est pas Jean-Christophe Hamann.
Il manquait les bols. Il manquait les bols, il manquait les cerveaux.
Et non, les bols et les cerveaux existent.
Ouais. Ouais.
Parce qu'ici, je pense qu'il existe. Mm-hmm. Les possibilités d'avoir un consensus, c'est pas évident, je trouve.
Oui.
Ouais. Mais il faut dire que c'est ça qu'on fait. Il faut prendre le risque.
Ah oui, peut-être. S'engager en arrière. Par ailleurs.
Je vais sortir mon Institut d'art contemporain et les tablettes.
Mais c'est ça une tâche.
Mais c'est une tâche, c'est-à-dire complètement, continuellement, la confrontation.
C'est ça.
Donc, tu pètes la gueule et tu recommences. De toute façon, c'est possible.
Mais ce problème d'information est très important aussi parce que la quantité d'absorption d'informations par un milieu, ou même par un individu, est limitée. Et l'information, évidemment, outrepasse cette limite critique-là. Il y en a trop. Alors, avant, tu pouvais peut-être créer en rapport avec ce que tu savais, puis tu pouvais pas mal tout savoir ce qui se passait. Maintenant, tu ne peux plus tout savoir ce qui se passait, à moins de te consacrer entièrement à piger ou aller chercher l'information. Puis encore. Alors, si tu n'as plus le temps de créer, tu fais juste ça. Donc, faut que j'arrête, je m'en vais dans mon atelier, puis je fais quelque chose. Puis souvent, tu fais quelque chose, mais tu t'aperçois que tu n'es pas le seul à le faire. C'est très difficile pour un artiste de se démarquer dans ce contexte-là. Puis le contexte québécois n'échappe pas à cette espèce de prolifération d'informations. C'est presque une entrave à la création dès que tu deviens sensible aux problèmes pour un artiste. Alors la seule solution, ça explique peut-être le phénomène actuel, c'est l'ego trip.
Prendre une chance sur toi-même.
Ben oui, tu dis bon. Je dois être différent des autres, je fais mon truc. Puis des fois, ça marche. Les gars, pour lui, ça marche.
Parce qu'une chose, il faut mettre bien net, peut-être que tu l'as déjà dit, mais peut-être pas bien net sur la bande. Toi-même, tu considères que dans un journal, tu peux pas le faire. C'est-à-dire,
non,
tu peux pas être.
Non, parce que tu es déchiré.
Tu dis que Parachute lui-même ne réussit pas à le faire.
Non, parce que tu es déchiré d'un journal entre le milieu et entre la notion de journalisme. La notion journalistique telle que conçue par tes patrons.
La notion de consensus.
C'est ça. Voilà. Alors, tu fais des comptes rendus, tu donnes l'information. La fonction critique n'est pas très, très bien vu en général, même si on réussit à la maintenir depuis toujours. Pour eux, parce que de toute façon, ces gens-là ne vont jamais voir une exposition. Alors, tu ils se permettent de se prononcer sur l'art alors qu'ils n'ont jamais vu. Et ils ne s'intéressent pas à ça. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas des interlocuteurs à l'art. Bon. C'est une réaction comme ça avec eux autres. Mm-hmm. Ils savent d'ailleurs, ils payent à l'art quand ils m'ont parlé. Mais c'est sûr que la fonction journalistique est difficile parce qu'il ne s'agit pas juste de faire une critique d'une exposition, il s'agit de faire une critique qui soit bien emballée avec des beaux rubans et qui puisse être accessible à la majorité des lecteurs. Ce qui est complètement contradictoire des fois, étant donné le sérieux et la complexité des œuvres d'art aujourd'hui.
Mais ça, va te poser une question qui pourra sembler peut-être un peu vache. Mais penses-tu que justement, par le fait, comme tu disais, de vouloir, comme on trouve ses jobs de nos jours, le fait de vouloir durer dans ce travail-là, est-ce que tu ne penses pas que toi-même, t'atténues ton travail, inévitablement, tu ne prends pas trop de risques pour sauver ta job?
C'est une stratégie à long terme. Je prends des risques. J'ai jamais eu un pouce de censure dans ce que j'ai écrit. J'ai toujours pu écrire ce que j'ai voulu. J'ai jamais été coupé. J'ai jamais eu de remarques sur mes idées, dans le sens que tu ne devrais pas écrire quelque chose. Non. Donc, j'atténue pas. Quand j'ai des risques à prendre, je les prends. Puis en général, j'ai l'appui de mes patrons. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que faut que tu trouves un ton, faut que tu trouves un langage, donc faut que tu fasses une stratégie à long terme pour pouvoir continuer à parler des choses sans te couler toi-même. Parce que si tu viens trop radical, à un moment donné, il y a 5 artistes à la terre que tu vas aimer, puis ça va finir là. Puis au fond, si, j'étais médecin, j'étais habitué, puis je connaissais l'art, c'est sûr que je serais extrêmement plus sélectif que je suis maintenant, parce que là, la fonction m'impose de ne pas être sélectif que ça, il faut que je parle de ce qui se passe. Alors que si je faisais un autre travail, puis je m'intéresse à l'art, et là, je pourrais me permettre d'être sélectif. Là, je ne peux pas me permettre, c'est la fonction qui m'impose. Mais je ne fais pas ça pour sauver ma job. C'est la façon dont je construis ma job plutôt, c'est comme ça.
Parce que si tu regardes, par exemple, des gars, tu vois, Greenberg, c'était quand même des magazines, ou même Kramer avait au New York Times, avait son art, lui, qui reste, il y en avait deux, l'autre reste,
parce que la question, c'est de quel côté je me situe, du côté du milieu ou du côté du journal pour lequel je travaille. Longtemps, je me suis situé du côté du milieu. J'étais un peu riche, j'étais un peu qui concevait au début tout dans le sens du milieu. Maintenant, plus je travaille, plus j'aime la fonction journalistique, plus je trouve ça fun d'être dans un journal, plus même je me sens capable de faire autre chose que ce que je fais en petit temps. Même en allant en politique ou en sport, même en athlète, puis je sais que je peux le faire. Parce que j'ai découvert le métier de journaliste. C'est très personnel, ça, cette démarche-là, et puis ça m'intéresse. C'est pas le cas de tous les critiques. Alors, je me situe aussi maintenant du côté, j'ai pas renié le milieu, mais je me situe aussi du côté du journal. Puis je me dis, si je travaille dans un journal, c'est quoi l'idée? C'est quoi? C'est peut-être le premier impératif, c'est de faire le bon papier pour que soit lisible ou intéressant, en tout cas, pour le lecteur, sans pour autant renoncer à ce que je suis, moi, en tant que personnalité. Je ne peux pas renoncer à mon écriture, à ma façon de voir les choses, etc. Autrement, je vais me tromper moi-même, puis je vais perdre à part ça la crédibilité, une certaine crédibilité que j'aurais peut-être, même le milieu, ou vis-à-vis du lecteur. Je pense au lecteur, le journal, la fonction critique journalistique, elle n'est pas faite pour le milieu. Elle est faite pour l'ensemble d'une population qui achète un journal qui est considéré comme une espèce de grand forum sur la place publique, c'est ça. C'est une dimension que je n'avais pas vu ça, et que j'ai découvert il y a peut-être 3-4 ans. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. J'étais sectaire, j'étais très partisan, tu sais. Alors c'est sûr que je fais toujours en confrontation avec mes patrons, qui sont idéologiques, vous voyez bien, je ne peux pas s'accorder. Maintenant, ça change. Il y a une diplomate. mets pas d'eau dans mon vin en ce qui concerne mes idées, mais à la façon de faire mon travail. Oui. Puis ça me plaît, parce que j'ai découvert que c'est un métier, ça aussi.
Tu dilues peut-être des idées au moment de l'écriture.
J'échange pas. J'échange pas. Ça, je vais penser autrement, si tu veux. Et puis, l'information, c'est chier de la faire, parce que c'est le cas de l'humanité de communauté. Mais là, je dis non, ça fait partie du métier. Puis, quand tu commences à bien faire ça, ben, tu fais ça, c'est un art. Puis, ça, c'est facile que ça. Alors, ben, c'est une petite information de feuillet punchy.
Ça, je vois, parce que je me souviens comme ça, petit, quand Québec 75 était sorti, ça sortait, bang, on ne commencera pas le débat, et puis on a vu servir le fichier dit dans le temps. Mais ça, on y goûtait, ton point de vue n'était pas justement dilué d'aucune façon. Puis remarque que moi, je même tu étais contre. Je ne suis pas gêné pour le dire. Si tu n'étais pas gêné, je ne suis pas gêné.
Non, c'est parfait. C'est bien.
Non, mais c'est ça, mais je veux dire, un article comme ça, je trouverais que. Alors que je pense, dans le cas de Repères, il y avait peut-être place à. Surtout pour ce qui est de, comment cette exposition, cette exposition-là voulait être, à justement dire, wow, là, y aller en douceur, là, franchement trop doux. Pris une exposition safe, vous voulez dire, etc. Alors qu'un musée n'a pas.
C'est un point de vue, je n'ai pas pensé. C'est vrai que c'est une exposition.
Ils n'ont pas pris de risque.
Non, 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 non. Mais d'un autre côté, s'ils prennent un risque, ils se cassent la gueule.
Puis,
il
en fera un autre le mois d'après.
Parce que le risque, je pense, dans la façon dont tu le conçois, ils se cassent la gueule, automatiquement.
Pas nécessairement. Ouais. Québec 75, on se pète la gueule, puis on va en parler. On se l'est pété. Il n'a pas été bon des subventions à venir.
Peut-être que si j'avais une exposition dans deux mois aussi, j'aurais écrit vraiment, tu sais, des fois, il y a des sortes de circonstances invisibles, tu fais que ce monde-là, tu fais comme ça, puis ça fait partie du métier aussi. Il y a des artistes qui font des tableaux de la journée parce qu'on entend le mot, puis, mais à part ça, il y a l'autre, il y a cette espèce aussi, l'autre aspect. Oui, il aurait pu faire autrement, mais ça, je faisais ça sur toutes les maudites d'exposition. Je l'ai dit récemment pour la photo, là, donc, hein. C'est sûr. Québec, Repères, ça me paraissait intéressant comme un choix très personnel d'un conservateur qui, de mon point de vue, a réussi à le défendre. Par ailleurs, c'est pas l'exposition de Repères.
Non, mais ça, on ne pouvait pas le savoir, parce que le texte, on ne l'a jamais vu.
Ah, ok, moi je l'ai lu.
Ça, on ne l'a pas vu.
Pardon.
C'était incompréhensible. Le choix était là, mais on ne voyait pas la norme du choix.
Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi j'en ai là, comme ça, puis je pourrais être différent d'un jour. Comprends, la critique d'art, c'est fait par des individus. On a dit toujours ça.
Qui ont le mood à eux.
Ah oui. Ça, c'est une affaire qui est difficile. Moi, maintenant, j'aime beaucoup écrire avec le jeu, personnellement. Alors, c'est pas ça, au début. Mais, ben, tu peux aider quand tu mets jeu, au lieu de mettre fond. Tu sais, hey, c'est toi qui es là, tu parles, tu sens que ça vibre, tu sais, t'impliques, c'est fantastique. Parce que quelle est cette prétention de te masquer derrière le paravent du on? C'est qui ce on? C'est qui ce nous? Ça n'existe pas. C'est, alors, selon Franck, mettons jeu, et si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est parfaitement son droit. J'aime mieux mettre jeu. C'est un autre changement dans l'écriture. Ça n'a pas été perceptible pour les gens, mais moi, je commençais à avoir plus de plaisir avec les gens. Comme les artistes d'aujourd'hui, ils sont très individuels.
Je pourrais vous dire, tu t'es fait avoir, t'as suivi l'influence de ce que tu parlais tantôt. De,
mais oui.
L'égo-trick.
Mais oui, mais donc j'existe en tant que jeu. Puis c'est pas un autre qui écrit, c'est moi. Et je pense que c'est de la fausse représentation que faire le contraire, que d'écrire au nom de. Il me semble que ça doit être intéressant. Certainement ceux que je lis qui sont très personnalisés, intelligents quand même, objectifs aussi par la somme de connaissances qu'ils peuvent embarquer là-dedans. C'est son génie surtout. Que le grand texte, détaché, distancé, avec une petite odeur de l'université.
Le règle là?
Ouais.